Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le réalisateur Mathieu Stanis enchaîne les films d'action à gros budget, mais semble avoir perdu inspiration et créativité. Alors qu'il tourne un énième blockbuster, il se fait kidnapper par les agents d'une dictature asiatique. Le leader local, excédé par la nullité des productions de son pays, exige que Mathieu mette en scène une nouvelle adaptation de King Kong, dont il a personnellement écrit le scénario. Refuser, c'est se condamner à mort. Tel est le synopsis de la mini-série King Kong que vient de diffuser la chaîne Arte. Scénario loufoque, encore que, comme toutes les bonnes histoires, celle-ci s'inspire de faits réels. À la fin des années 70, le cinéaste sud-coréen Shin Sang-ok se retrouva prisonnier au Nord et contraint de réaliser une dizaine de films pour le régime, comme le précise le dossier de presse de la série. Alors, fort heureusement, et jusqu'à preuve du contraire, les cinéastes en France ne sont pas soumis à de telles contraintes. Mais c'est bien connu, la liberté totale n'existe pas. Alors, sera-t-elle réduite suite à l'accord que la Guilde française des scénaristes vient de signer avec le ministère des Armées? C'était fin septembre, l'objectif est de permettre aux films ayant trait à des sujets portant sur la défense de bénéficier de conseils avisés des militaires, mais aussi, comme l'a dit la ministre Florence Parly, de cultiver le lien entre les armées et la nation. Vocabulaire qui semble emprunté à une autre époque. Alors, y a-t-il un cinéma de propagande? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons discuter. Alors, je précise tout de suite, il ne s'agit évidemment pas de mettre au même niveau la propagande d'État dans un pays comme peut l'être la Corée du Nord, avec ce qui vient de se jouer entre le ministère des Armées et les scénaristes français. Mais c'était aussi l'occasion, un prétexte pour aborder un peu plus largement ce sujet. Et nous allons le faire en votre compagnie. Jean-Louis Comolli, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes cinéaste, essayiste. Vous êtes passé par tout un tas d'endroits, notamment les Cahiers du Cinéma, dont vous avez été le rédacteur en chef. Ouais, je ne vais pas faire la bio complète. L'an dernier, vous avez publié aux éditions Verdier « Daesh, le cinéma et la mort », ouvrage dans lequel il est justement beaucoup question de propagande. Pour discuter avec vous, Romain Prota, bonsoir. Vous êtes scénariste, réalisateur, membre de cette guilde française des scénaristes qui tout regroupe l'essentiel de la profession, en tout cas une grande partie.
Pas assez encore. Mais...
Un de vos derniers films, en tout cas, sorti en salle comme scénariste, c'était cette année. C'est Beau la vie quand on y pense, film réalisé par Gérard Jugnot. Et puis notre troisième invité se trouve à Amiens, en duplex, dans les studios de France Bleu. Il s'agit de Sébastien Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'université de Picardie Jules Verne. Vous avez publié, ça date d'il y a quelques petites années, c'était aux éditions du Nouveau Monde, Le cinéma et la guerre d'Algérie, la propagande à l'écran. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion quand même par un des éléments d'actualité qui nous a donné envie de faire cette émission, cette convention entre l'armée française et la guilde des scénaristes. Est-ce que ça veut dire, Romain Prota, que vous allez faire des stages commando pour écrire vos prochains films?
Mais j'aimerais bien, si j'écris un film sur les commandos, j'aimerais bien pouvoir faire un stage commando. Tout comme si j'écris un film sur la médecine, j'aimerais bien pouvoir passer un petit temps à l'hôpital pour regarder comment ça se passe. Et c'est le but de cette convention, c'est d'ouvrir une porte et de donner accès à tous les auteurs porteurs de projets qui se déroulent dans ce milieu, à des informations, à des conseils, à de l'immersion, et pouvoir connaître la réalité du terrain.
Chose qui n'existait pas jusque-là.
Non, il y a un bureau, la mission cinéma qui a été créée en février par le ministère des Armées, et le but, c'est de développer ce genre d'initiative. Après, l'armée a toujours aidé, participé aux films qui traitent de ce milieu, et pas forcément des films qui sont à son avantage. Elle a aidé à faire Indigène, qui est pas un film à la gloire de l'armée française. Donc oui, c'est ouvrir une porte...
Et c'est une porte qui s'ouvre et qui, je crois, vous intrigue un peu, Jean-Louis Comolli, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette signature-là.
Elle s'ouvre sur quoi? C'est ça la question, oui. Parce que moi, je suis frappé par la concomitance entre ce qu'on pourrait appeler la guerre moderne, qui est la guerre des horreurs, la guerre de l'atroce. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on le voit encore ici et là. Une guerre totale où rien ne résiste. Femmes, enfants, parents, civils, vieillards, maisons, rues, tout est systématiquement détruit. Alors si c'est ça l'armée aujourd'hui, il va falloir faire un gros travail pour la valoriser.
Alors, qu'est-ce que vous sous-entendez justement? C'est que ça permet, c'est peut-être un moyen, du point de vue en tout cas de l'armée, de redorer un petit peu son blason.
Ça va être difficile, hein, ça va être dur, parce que c'est pas l'armée qui est en cause, c'est la guerre. Voilà, l'armée est destinée évidemment à combattre. Hein, elle n'est pas destinée à défiler seulement. Et la guerre aujourd'hui n'est plus la guerre d'hier. C'est une banalité que de le dire. La guerre aujourd'hui, c'est l'atrocité même. C'est la suppression radicale de toute trace de vie à la surface du globe. Alors faire un scénario de ça, oui, bien sûr, les Américains le font. Ils l'ont fait. Mais les Américains n'ont pas peur de raconter le pire dans leurs films. Je dirais même qu'ils y prennent goût. Alors que nous, c'est plutôt le contraire. On a envie quand même, enfin, il me semble, la guilde des scénaristes et moi-même, nous avons envie que les choses n'aillent pas trop mal. Donc on va pas montrer des bourreaux sanglants. Enfin, voilà, les horreurs de la guerre, c'est pas pour le cinéma, me semble-t-il.
Sébastien Denis, je disais en début de l'émission, en vous présentant, que vous avez travaillé notamment sur la guerre d'Algérie. Les rapports entre le cinéma, et en l'occurrence le cinéma français, et l'armée, est-ce que ce sont des rapports qui ont plutôt été compliqués dans l'histoire et qui, là, seraient peut-être un peu pacifiés, disons, aujourd'hui, avec ce genre de convention?
C'est une vraie proposition que fait le ministère, mais c'est, me semble être une proposition un peu étonnante et un petit peu bizarre, puisque il y a déjà eu ce genre de choses, par exemple pendant la guerre d'Algérie, où il y a des films qui ont été écrits en fait pour le ministère, mais qui n'ont jamais été réalisés parce que, à force d'être censurés et réécrits, finalement, ils n'ont jamais donné lieu à rien. Ce qui m'inquiète un petit peu, moi, dans la position de la guilde des scénaristes, c'est la question d'être embedded, c'est-à-dire d'être effectivement intégré à l'intérieur de l'armée, d'une certaine manière, pour créer. Donc évidemment, ça pose un problème puisque ça empêche, d'une certaine manière, de proposer une vision qui serait négative de l'armée ou de la DGSE, par exemple. On en reparlera peut-être.
Est-ce que ce sont des inquiétudes, justement, Sébastien Denis, qui sont peut-être justifiées à vos yeux parce que des exemples dans d'autres pays montrent que à partir du moment où il y a ce type d'accord, il peut y avoir une forme d'instrumentalisation de la part des militaires à l'égard des cinéastes?
Oui, absolument. Le cas principal, évidemment, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis où il y a beaucoup de films qui se produisent grâce à l'armée, à l'appui de l'armée d'une manière ou d'une autre, à l'appui de la CIA aussi. Et effectivement, les scénaristes qui peuvent travailler, peut-être on reparlera de certains films, qui peuvent travailler avec ces services-là, manquent effectivement de recul. Donc il y a une question d'autocensure dans l'écriture pour ne pas être censuré à poster. Et puis il y a un problème aussi, qui est un problème qui est lié au fait de vivre avec des militaires ou des espions qui, au moment de l'écriture ou de la réalisation, finit par créer une espèce de synergie, hein, et donc fait qu'on peut adopter finalement le point de vue de l'armée, et donc avoir effectivement là aussi un problème de recul.
Romain Prota, comment est-ce que vous allez faire pour essayer de lever les inquiétudes formulées par et Jean-Louis Comolli et Sébastien Denis?
Je pense que déjà, il ne faut pas mésestimer l'esprit critique des créateurs. Chacun est libre d'avoir ses opinions et son point de vue. Et être confronté à la réalité des choses, à l'humain, à la technique, ça ne transforme pas forcément le point de vue pour prendre le parti de l'armée. Et en plus, je ne sais pas ce que c'est que le parti de l'armée en soi.
C'est peut-être aussi les propos de la ministre des Armées, hein, qui sont un peu, ambigus. Oui. Quand elle dit, alors moi j'ai vu dans la dépêche AFP, hein, qui relatait cet accord, grâce à cet accord, ce sont deux mondes qui vont pouvoir se connaître, se parler, se comprendre et cultiver le lien entre les armées et la nation. Par vos projets, donc elle s'adresse aux scénaristes, vous permettrez à chacun de saisir un soupçon du quotidien de nos armées et de vibrer un peu avec elles. On a l'impression que là, il y a les drapeaux, ça y est, qui
le
sont levés.
Vibrer, très bien. Non, mais ça, c'est le côté sexuel, vibrer. Vous voyez, c'est une érotique de l'armée qui est proposée. Donc, pour les scénaristes, c'est génial, ça. Il faut pouvoir s'en donner un cœur joie. Non, moi, je suis un peu consterné dans la mesure où la propagande s'en est sans doute, mais la propagande n'a de sens pour moi d'efficacité que s'il y a un mouvement général. Bon, les films de propagande nazie étaient portés par l'adhésion de masse des Allemands au nazisme. Les films de propagande stalinien étaient portés par l'amour immodéré des soviétiques pour Staline. Voilà. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce terrain, cette condition d'ensemble, la propagande devient dérisoire et on peut même s'en moquer.
Mais si elle est dérisoire, c'est qu'elle est inoffensive, donc finalement c'est pas très grave. Prenons un exemple, par exemple, qu'on cite beaucoup et j'imagine que tous les trois vous l'avez un petit peu à l'esprit. Alors on n'est pas tout à fait au cinéma puisque c'est une série télévisée, même s'il y a de moins en moins de différence entre ces deux formes. C'est cette série que propose depuis quelque temps Canal+, le Bureau des légendes, qui existe aussi dans le cadre d'une sorte de partenariat justement entre ceux qui ont créé cette série et les renseignements français.
Je ne sais pas si vous connaissez Malotru, notre clandestin qui vient de finir sa mission en Syrie.
Mon colonel.
Comment vous vous appeliez là-bas?
Paul Lefebvre.
Et donc vous avez été amené à rompre certaines relations?
Vous savez très bien de qui on parle.
Madame Nadia Al-Mansour.
Ça va?
Tout va bien, tu me fais pas le syndrome du clandestin.
C'est quoi ça, le syndrome du clandestin?
Ça nous met tous en danger parce qu'on ne veut plus de sa vraie vie.
Tu es à Paris?
Ouais.
Moi aussi.
Voilà, extrait du Bureau des légendes, donc qui est une série diffusée sur Canal+. J'imagine que vous la connaissez, Sébastien Denis, cette série. Est-ce que vous considérez, par exemple, que c'est une série qui fait de la propagande, ou en tout cas qui fait la promotion du renseignement français? Puisqu'on est finalement dans des conditions assez proches de ce qui vient d'être signé entre la Guilde des scénaristes et l'armée.
Oui, pour moi, c'est effectivement une action de communication de la part de la DGSE, donc la Délégation Générale pour la Sécurité Extérieure, qui dépend du ministère de la Défense, de la Armée, contrairement à la DGSI qui dépend de l'Intérieur. Là, on est effectivement, clairement, il y a un vrai lien avec la Défense. Et quand je dis...
Et pourtant, tout le monde salue la qualité de cette série, quand même. Hein. Personne, on entend quand même rarement dire que, voilà, on est au service de l'espionnage ou du contre-espionnage français. C'est quand même d'abord salué pour la qualité de son récit.
Bien sûr, mais ce qui est intéressant dans la propagande, et là je parle de manière générale, c'est de voir comment elle réussit finalement son pari. Son pari, c'est quoi? Si le ministère de la Défense met des billes dans une série comme celle-là et aide effectivement un producteur à faire une série, c'est pour parler en positif de l'image de la Défense et faire d'une certaine manière ce que Homeland par exemple a fait aux États-Unis pour la CIA et la CIA. Il s'agit de donner une image favorable, que ce soit des informaticiens, des analystes, etc. Enfin, des gens qui travaillent sur le terrain ou dans les bureaux pour aider à la lutte antiterroriste. Donc, il y a un côté. Il y a un côté à la fois positif et négatif dans le projet lui-même.
Et Jean-Luc Omoli, est-ce que le cinéma américain ne montre pas quand même que c'est beaucoup plus peut-être compliqué que de penser qu'il y aurait un rapport presque de subordination entre l'armée et les cinéastes? C'est quand même les Américains, alors certes, qui ont pu produire et produisent peut-être encore, je pense par exemple au Clint Eastwood, American Sniper. J'avais fait une émission à partir de ce film-là il y a quelques mois, donc j'avais trouvé un film assez horrible justement du point de vue de la propagande. Mais c'est aussi un cinéma qui a produit Apocalypse Now, qui a produit Voyage au bout de l'enfer, c'est-à-dire des films qui ne sont pas du tout à la gloire de l'armée américaine.
Loin de là, ni de la nation, ni de l'armée, voilà, aucune des deux. Donc la majorité des films de guerre américains sont des films critiques, et c'est ce qui fait leur force. Hein, leur intérêt, moi, spectateur, j'en ai vu une flopée, c'est pas la guerre, c'est la réaction des soldats ou des officiers à la guerre. Et c'est ça qui est traité. Alors, cette réaction, elle est négative, elle est pas positive. Ils adorent pas ça du tout. Et quand ils l'adorent, c'est pervers. Alors, c'est ça que je voulais souligner, c'est que, bon, toujours, il y a eu deux formes de propagande. Une propagande officielle, affichée, bon, les films sur Staline, les films sur Mao, les films sur Hitler, et puis une propagande implicite, un petit peu discrète, disons, qui ne se fait pas trop voir. Et là, on peut interroger, alors là, on doit interroger la franchise ou l'honnêteté de ceux qui participent à ce genre d'insinuation, de travail un petit peu caché de l'opinion. Voilà, manipulation, le mot est un peu fort.
Mais... Quel film, par exemple, vous verriez entrer dans cette catégorie-là de la manipulation ou de la propagande implicite, Jean-Luc Omoli?
Je crains fort d'en voir trop pour pouvoir les citer.
Allez, un ou deux.
Non, beaucoup de films font comme ça, mais y compris d'ailleurs sans que ce soit une volonté perverse. Mais il est très difficile de dire du bien de quelque chose sans le faire de façon perverse. C'est très difficile parce que évidemment masquer ou gommer les aspects négatifs, c'est tricher avec la réalité, ça c'est certain. Il y a pas de, je veux dire, un film sur l'Esprit Saint, serait obligé de montrer quand même ce qu'il y a de mauvais dans l'Esprit Saint. Parce que sinon, ça ne serait pas sérieux.
Romain Protat, la propagande, si elle s'exprime aujourd'hui, c'est davantage justement de manière implicite, et d'ailleurs sans doute dans d'autres domaines, puisque là on a commencé sur l'armée, mais ça ne fait pas tout le cinéma, bien entendu, ça ne fait pas toute la propagande, mais peut-être de manière plus implicite aujourd'hui. Moi, je pensais par exemple un certain nombre de blockbusters américains qui mettent en scène des super-héros. Ça n'est pas tout à fait neutre politiquement, ça, par exemple, ce genre de film.
Ça, c'est un vaste débat. C'est la question du soft power et de la subjectivité de chacun. Je pense que cette vision de dominatrice des États-Unis est tellement intégrée chez les auteurs américains qui n'ont même pas d'intention concrète et affirmée de faire de la propagande. C'est comme ça qu'ils font leur film, c'est comme ça qu'ils voient le monde, et il n'y a pas de volonté...
Ça fait partie du récit national américain.
D'un point de vue historique, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. C'est ça ce que vous dites.
C'est intégré maintenant.
Mais bon, les années 30 et les années 40, les années 50, il y a beaucoup de films de guerre sur la police, sur les flics et tout ça. C'est pas du tout des films bien pensants. C'est des films au contraire qui essaient de réveiller quelque chose chez le spectateur et d'en faire un spectateur critique.
Oui, maintenant c'est tellement intégré qu'il y a... Il n'y a plus d'agenda caché du gouvernement américain pour essayer de diffuser sa vision du monde.
Parce qu'il y a peut-être une preuve de la réussite d'une forme de propagande, finalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est intégré, il n'y a plus besoin
de... Une forme de récit national.
Absolument. On verra d'ailleurs peut-être dans un peu plus tard dans l'émission si ce récit national, il existe aussi dans les films français. Mais pour rester sur le cinéma américain, Sébastien Denis, quand on vous a demandé aux uns et aux autres alors de réfléchir malgré tout à quelques exemples peut-être de films qui pourraient entrer dans cette catégorie de films de propagande, vous nous avez cité un film multi-oscarisé qui est assez récent, c'est Des mineurs.
Et vous, le cosmonaute ?
Oui, monsieur.
Combien de bombes vous avez désarmées ?
873, monsieur.
Quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins ?
C'est d'y survivre, monsieur.
Oh, nom de Dieu.
Alors, les fans de cinéma que vous êtes ont peut-être eu les oreilles qui ont commencé à saigner en entendant la version française et non pas la version originale de ce film de Catherine Bigelow. Sébastien Denis, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film ? Celui-là parmi d'autres, mais pourquoi celui-là notamment ? Pour illustrer cette question du « y a-t-il encore un cinéma de propagande ?»
Ce qui me semble intéressant dans les films de Catherine Bigelow, les films récents, c'est-à-dire Des mineurs et puis Zero Dark Thirty, qui est sorti après sur la traque de Ben Laden. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une cinéaste qui, effectivement, est reçue plutôt positivement par la critique comme étant finalement une sorte de... comme faisant des films relativement anti-guerre. Alors que dans les faits, c'est ce qu'elle montre tout simplement, c'est un film, des films qui sont à la gloire de l'armée américaine. C'est pas parce que les choses qui sont montrées sont sales que ça donne une image forcément négative. Au contraire, ce qu'elle fait, et c'est là que on se joue aussi la propagande aujourd'hui, c'est qu'elle passe ce qu'on appelle une propagande grise, c'est-à-dire une propagande qui ne dit pas son nom, mais elle passe par des intermédiaires. Elle travaille avec des gens de la CIA pour faire ses films, ce qui a fait scandale d'ailleurs. Aux États-Unis, et donc elle a des informations effectivement que personne d'autre n'a pour faire son avoir un matériau, hein. Et puis qu'à l'intérieur elle traite de manière très intelligente les conflits par le biais de héros simples, de héros populaires, et donc elle passe par la personne, hein, par la vie quotidienne d'une certaine manière, un style documentaire qui fait que on a l'impression de vivre avec ces militaires. Mais au total, quand on regarde ces films qui peuvent sembler au premier abord relativement négatifs envers l'armée, on a que des actions très positives. On a des gens qui donnent leur vie pour leur pays, donc des patriotes. On a du coup une armée qui est très très utile dans des pays voilà qui sont à feu et à sang. Et donc au total, ce sont des films qui montrent une image assez unilatérale en fait, alors que ça se veut tout à fait bilatéral, ça ne l'est pas du tout, et ça crée donc une, pour moi effectivement, une nouvelle forme de propagande.
Alors je ne sais pas si Romain Prota et Jean-Luc Omoli ont vu les films de Catherine Bigelow, Jean-Luc Omoli, est-ce que vous êtes en tout cas d'accord, si c'est le cas, avec ce que vient de dire Sébastien Denis?
Non, moi je suis perturbé par cette question, dans la mesure où je vois monter depuis, disons, 20 ans, hein, au cinéma et à la télévision, et même dans la presse écrite, je vois monter la fascination pour la mort. Voilà. Là, puisque Freud avait dénoncé en 1929, je crois, dans Malaise dans la civilisation, c'est la pulsion de mort. La pulsion de mort est en train d'envahir absolument tout. La vie réelle, c'est-à-dire les gens qui se tuent, qui se sacrifient, qui deviennent des bombes humaines, etc., etc. Il n'y a que ça. Bon, les attentats et tout, mais aussi partout, les films, les voilà, dans le nombre de films, notamment américains, où c'est la mort qui triomphe parce qu'elle est là tout le temps. Hein, c'est très impressionnant. Donc je m'interroge sur ce tournant, un tournant de civilisation, on pourrait dire presque, qui fait que aujourd'hui une grande masse.
Mais ce tournant que le cinéma accompagne ou que le cinéma provoque, disons, en fait, alimente.
Je pense que le cinéma ne fait que l'accompagner et disons lui donner une résonance peut-être plus grande qu'elle n'aurait, et le banalise. Voilà, ce que le cinéma fait, c'est qu'il normalise. Il normalise tout. Il normalise le crime. Il normalise le scandale. Voilà, comme la télévision le fait aussi, c'est de la normalisation. Quand ça passe sur un écran, le monde est légèrement tranquillisé, calmé. Voilà. Et donc c'est banalisé, et donc on l'accepte plus facilement.
Romain Prota, vous travaillez surtout sur des comédies, hein, je crois, comme scénariste, mais au-delà, alors peut-être des films que vous écrivez, est-ce que vous partagez un peu ce constat d'une forme de fascination, peut-être, de plus en plus affirmée aujourd'hui pour cette pulsion de mort que nous décrit Romain
Prota ? En ce qui concerne le cinéma français, force est de constater que non, parce que l'essentiel du marché du cinéma français reste des films de comédie, c'est ceux qui marchent le plus, qui font le plus d'entrées, qui sont le plus vus par les spectateurs. Donc il y a quand même moins cette pulsion de mort dans les comédies françaises.
Sûr, c'est surtout en Amérique, vous avez raison, bien sûr.
Et donc là, en France, je peux vous rassurer là-dessus, la pulsion de mort est moins prégnante.
Non, mais bon, moi je disais, la France, au niveau de l'histoire de France, on parlait de récit national, il faut parler d'histoire. L'histoire de France est une histoire sanglante, une histoire de meurtre, de crimes, de torture, d'abomination. L'histoire de la guerre d'Algérie est un exemple très net de ça. Et précisément, ce qu'on fait, les films qui fonctionnent bien en France, sont des comédies un peu unanimistes, un peu réconciliatrices, où personne n'est fâché avec personne. Et bon, alors donc, il y a quand même un paradoxe, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de récit national français dans la mesure où une grande partie de la réalité est oblitérée. Ce qui a permis aux Américains d'avoir un récit national, c'est le fait qu'ils ont masqué ni le génocide des Indiens, puisqu'il y a un nombre de westerns absolument incalculable, et qui n'ont pas non plus masqué la défaite au Vietnam. Il y a beaucoup de films américains là-dessus. Donc, quand on prend en charge les mauvais moments de l'histoire, les mauvais passages historiques, eh ben, on peut faire un récit national. Quand on les refoule, ça devient impossible.
Alors justement, puisque vous évoquez la guerre d'Algérie, c'est sur cette question notamment qu'a travaillé Sébastien Denis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable prise en charge de cette période. C'est vrai qu'on a coutume de dire en général qu'il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue cinématographique sur la guerre d'Algérie. Est-ce que d'abord c'est vrai? Est-ce que vraiment ça a été une période peut-être un peu d'assèchement? Ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça et qu'il y avait quand même une production, mais qui était peut-être une production à la fois de propagande et puis aussi de récit national, mais d'un récit un peu déformé par rapport à la réalité?
Alors oui, sur l'Algérie, il y a eu une production, bien sûr. C'est essentiellement pendant la guerre d'Algérie une production de propagande. Et puis, donc, il y a eu une diffusion finalement relativement limitée. Et puis, bon, je suis assez critique sur la propagande qui a été produite, puisqu'elle est, de l'aveu même de ceux qui l'ont faite, elle était très mal faite, puisque les cinéastes avaient affaire à des militaires qui ne savaient pas finalement ce qu'il fallait dire. On était face à un empêchement de type politique par rapport à ce qu'il fallait montrer de la guerre d'Algérie. Par contre, ensuite, c'est toujours assez faux hein, de dire qu'il n'y a pas eu de film sur la guerre d'Algérie. Il y a beaucoup de films sur la guerre d'Algérie. La seule chose, c'est que il y a très peu de films de guerre sur la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, il a fallu attendre, à mon sens, L'ennemi intime de Florian Milhaud-Siri pour qu'il y ait vraiment là une prise en charge de l'Algérie en tant que guerre. C'est-à-dire, effectivement, en tant que conflit qu'on pouvait traiter à la manière des Américains. C'est-à-dire qu'il s'assumait, d'une certaine manière, en tant que guerre. Mais sinon, il y a une très grosse production, en fait, française sur la guerre d'Algérie.
Et il y a une grosse production aussi pendant la guerre d'Algérie, sur l'Algérie du cinéma français. Je voudrais vous faire écouter un court extrait d'un film qui date de 1955. Sébastien Denis, je pense que vous allez le reconnaître. Enfin, on va voir, c'est notre blind test du soir.
Ahmed. Alors,
la corniche de Bougie, c'est la plus belle promenade de l'Afrique, y compris le Transvaal, le Kenya et le Ogaden. Avec retour par la haute Kabylie.
Combien de jours?
3-4 au maximum.
Bon, d'accord.
Je vais préparer la voiture.
Chez Chat. Chasseur! Soyez gentil, dites au directeur d'avertir le capitaine de mon yacht d'aller mouiller à Tixirt.
Bien, monsieur.
Merci.
Bon, alors avant de demander à Sébastien Denis s'il a reconnu ce film, je ne sais pas si Romain Prota et Jean-Luc Omoli voient de quoi il s'agit.
Ben là, pas du tout, alors, aveugle et sourd.
Sébastien Denis.
Oui, c'est un court-métrage qui s'appelle La Corniche de l'amour, qui est un court-métrage qui visait à faire la propagande de la côte, de la très belle côte algérienne.
Film signé Jean Francou, voilà, ce sont deux Européens, voilà, qui vivent une idylle, notamment en Kabylie. On voit des paysages fabuleux. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce film, c'est que 1955, c'est-à-dire, c'est quand même une période qui est quand même assez chargée, on va dire, en Algérie.
Après le début de la guerre.
Voilà.
Oui, oui.
Et là, finalement, la population musulmane algérienne est quasiment absente de ce film, Sébastien Denis. Donc c'est aussi une façon de raconter quelque chose.
C'est un film qui a été produit en 1953 et qui est sorti en 55. Donc en fait, il y a quand même un décalage entre le temps de la production et le temps de la monstration. Le fait qu'il ait pu être diffusé en 1955 montre effectivement le décalage qu'il y a eu au tout début de la guerre, hein, dans les deux premières années de la guerre, entre effectivement l'image qu'on pouvait donner de la propagande française en Algérie, l'image qu'on voulait donner de l'Algérie française, et puis de la réalité du terrain qui était déjà terrible à cette période-là.
Les films de propagande, quand on les évoque, effectivement, donc on pense beaucoup aux films soviétiques, on va penser à la propagande nazie, on va penser aux films américains pendant la période du McCarthyisme. Est-ce que aujourd'hui, Jean-Luc Omoli, on pourrait dire que les spectateurs sont suffisamment bien formés, ont vu suffisamment de films pour ne plus être naïfs et pour être en mesure de détecter là où il y a de la propagande et que ça l'oblige peut-être justement à être un peu plus subtil?
Bah écoutez, c'est des nappes qui se suivent et qui se contredisent. Il y a des nappes de crédulité, disons, où quelque chose porte les spectateurs à croire à ce qu'on leur montre, et puis il y a des moments de retrait où cette crédulité s'estompe ou s'effrite, et où on doute de tout. Et pour moi, on est arrivé dans ce moment-là, depuis quelque temps maintenant, la place du spectateur est toujours une place de doute. Voilà, le spectateur n'est jamais certain qu'on lui dise la vérité, qu'il voit les choses. Il a appris qu'il y avait des trucages, que tout pouvait être faux, qu'on pouvait le tromper, et du coup, il est davantage méfiant. Voilà, et ça, cette méfiance, disons que c'est plus quelque chose qui concerne les médias que le cinéma. Le cinéma demande une croyance, une adhésion, un enthousiasme, une jeunesse du spectateur. Alors le spectateur a vieilli.
Ouais, alors on sait que ça demande une croyance parce qu'on sait que ça n'est pas vrai. Donc finalement, l'adhésion, elle n'est pas tout à fait la même que par rapport à celle qui peut être faite pour les médias. Romain Prota, est-ce que vous sentez en tout cas ce changement de regard du spectateur sur les films qui sont faits? En tout cas, peut-être pas, on va pas dire une professionnalisation du spectateur, mais enfin, en tout cas, des spectateurs qui sont beaucoup très averti aujourd'hui de ce qu'il voit.
Oui, je pense qu'il y a effectivement un esprit critique chez le spectateur qui n'était pas là avant. Mais je pense qu'on n'est jamais assez critique et jamais assez éduqué à ce niveau-là. D'ailleurs, la ministre de la Culture a dit que c'était un des piliers, l'éducation à l'image et à l'esprit critique qu'elle allait travailler. Et après, c'est vrai qu'au cinéma, il y a un principe quand on entre dans une salle, c'est la suspension de crédulité. C'est-à-dire que vous rentrez dans une salle et je vais vous raconter qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Superman, qui a des super pouvoirs. Bon, si dès le début vous me dites non, c'est compliqué. Après, c'est pour ça que la propagande, je pense maintenant, passe quand même beaucoup moins par le cinéma et en salle, et plus par Internet, les réseaux sociaux, les fake news.
Vous avez raison, bien sûr.
Je vous ai pas d'ailleurs demandé, Romain Prota, à vous, mais il me semble pas, en tout cas depuis le début de l'émission, s'il y avait un ou des films de qui pourraient illustrer justement cette thématique de est-ce qu'il y a encore un cinéma de propagande vers lesquels vous iriez.
De nos jours.
Ouais, de nos jours, dans une période relativement récente.
C'est une question compliquée parce que je pense que le cinéma, c'est l'art de la subjectivité et je pense que parfois la propagande est un peu comme la beauté, elle se cache dans l'œil de celui qui regarde. C'est-à-dire que tout film qui va vous perturber dans vos convictions morales, religieuses, quelles qu'elles soient, peut être pris comme un acte de propagande. Parce qu'on est noyé sous les images et sous les discours. Et que de toute façon, tout est subjectif. C'est, les cinéastes et les auteurs ne sont pas des journalistes et ils font un état des lieux qui est leur état des lieux, leur vision du monde. Forcément, il y a quelqu'un qui se cache derrière ça et quelqu'un qui a un avis sur une question précise.
Ça, c'est intéressant, effectivement, la question de l'interprétation du spectateur, Jean-Luc Comolli, parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, on peut très bien voir des films en se disant c'est un horrible film mélenchoniste ou c'est un horrible film macroniste, pour reprendre un peu le débat politique aujourd'hui.
Si le spectateur reste dans la salle, c'est qu'il y croit. Voilà. S'il n'y croit pas, il s'en va. Il n'y reste pas. La croyance, c'est la condition même. Mais cette croyance n'est pas une croyance absolue, c'est une croyance relative. On y croit jusqu'à un certain point. Bon, et la preuve, c'est les documentaires qui posent cette question sans cesse. Est-ce que c'est pas une histoire? Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est pas des acteurs qui jouent le rôle des non-acteurs? Toutes ces questions se posent au spectateur. Donc le spectateur, pour le définir, c'est un être qui est rempli de questions. Rempli de doutes, et il n'y a pas la réponse au cinéma. Au cinéma, il y a la relance de ces questions et la relance de ces doutes. C'est pourquoi le cinéma de propagande, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il est totalement inefficace, que seule la propagande cachée, disons subtile au sens ancien du terme, peut marcher. Mais la propagande ouverte devient un objet très vite de dérision.
Peut-être aussi qu'on manque un peu de recul, soit de recul disons géographique, soit de recul historique, et qu'on se rendra compte d'ici, je ne sais pas, 20, 30 ans, que finalement un certain nombre de films qui nous paraissaient être des films dénués de toute propagande l'étaient, mais parce qu'on manquait de ce décalage, Jean-Louis Comolli, non ?
Ah ben écoutez, ça dépend un petit peu, parce que évidemment, les films, par exemple, qui ont pendant des années mis en scène le mode de vie américain, c'était des films de propagande pour l'American Way of Life. Pourtant, c'est des films qu'on revoit avec intérêt et avec plaisir. Mais la propagande, c'est pas seulement des discours, c'est pas seulement verbal, c'est tout ce qu'on montre. Comment les gens vivent, comment ils parlent, comment ils marchent. C'est ça, ça fait partie des modèles qui sont proposés aux spectateurs et que le spectateur peut être tenté d'imiter. Voilà, pas toujours, bien sûr.
Dans ce cas-là, tous les films sont des films de propagande.
D'une certaine manière.
Sébastien Denis ?
Eh oui.
Oui, ça pose un problème de définition finalement de ce qu'est la propagande. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la propagande qui déterminent au moins trois niveaux de propagande. Il y a une propagande blanche qui est une propagande qui s'affirme en tant que telle, c'est-à-dire on sait qui est l'émetteur de la propagande. Une propagande grise dont on ne sait pas qui est l'émetteur. C'est-à-dire que s'il y a un message de propagande, éventuellement on ne va pas s'en apercevoir. Il faudra attendre effectivement de l'ouverture des archives par exemple pour savoir si oui ou non ce film était un film de propagande caché, donc c'est la propagande grise. Puis une propagande noire qui est beaucoup plus rare, qui est qu'en gros on essaie de faire passer des messages à travers la propagande de l'ennemi, c'est-à-dire on produit l'ami produit une propagande qui semble émaner de l'ennemi. C'est beaucoup plus rare. Mais la propagande grise, c'est effectivement, on est passé, je dirais, d'une propagande blanche. C'est une propagande de guerre où du coup on sait qui produit le discours. Ça c'est valable dans tous les exemples soviétiques, nazis, américains, etc. Des guerres affirmées à une propagande grise où effectivement, en particulier depuis 2001 depuis les attentats et depuis le développement du terrorisme international, on a le développement d'une propagande grise, je pense beaucoup plus affirmée, puisque il s'agit simplement de faire passer des messages de manière subliminale, et on l'a je sais pas, des films comme Argo, par exemple, de Ben Affleck, ou comme La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, ou comme American Sniper de Clint Eastwood, ou Homeland, par exemple. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont dans le sens d'une propagande grise, à mon sens.
Jean-Louis Comolivo, qui vous êtes intéressé au cinéma de Daesh, il est, oui. Elle est de quelle couleur, la propagande de Daesh?
Parce qu'il faut pas avancer.
Elle est, oui, non, parce que, elle est particulière, c'est-à-dire, non seulement elle avance pas du tout masquée, mais elle est totalement assumée comme telle.
Oui, c'est une propagande destinée à faire peur. C'est pas une propagande destinée à séduire ou à attirer. Au contraire, il s'agit de repousser. C'est une propagande répulsive. Alors, c'est très, très bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut que le spectateur musulman, à 99% de ces films affreux, de ces films où on égorge devant la caméra des prisonniers, des otages, il faut que le spectateur ait horreur de ça, que ça lui fasse peur, et qu'ils finissent par se dire, s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables, ils sont très forts, voilà, on doit les admirer pour leurs horreurs, en quelque sorte. Alors ça, c'est une chose qui s'est pas passé chez nous. Voilà, les snuff movies où on tue véritablement les comédiens, enfin, entre guillemets, bon, ça, c'est des films qui peuvent pas être vus par un spectateur dans une salle. Pourquoi? Parce que, ça, c'est ce que je dis dans ce petit bouquin, le cinéma porte en lui l'espoir de la renaissance, l'espoir de la vie. Et que si on montre la mort au travail dans un film, qui n'est pas une fiction. Je vous rappelle que dans tous les films de fiction, il y a des morts. Mais c'est des fausses morts, bien sûr. Et le spectateur le sait. Le spectateur est dans la confidence, tout de suite. Il y a les tout petits enfants qui pourraient croire que les morts sont des vrais morts. En réalité, on accepte la mort au cinéma parce qu'on sait qu'elle est simulée. Voilà. Et quand elle n'est pas simulée, ben c'est horrible.
Peut-être que Daesh fera un jour l'objet d'un film de fiction, même si les terroristes islamistes sont déjà des personnages dans certains films, mais toujours comme des ennemis. Mais j'imagine que ça poserait quand même un certain nombre de problématiques de se dire, tiens, pourquoi pas faire un film qui raconterait l'histoire d'un combattant de l'État islamique, Romain Prota.
C'est un sujet très délicat à traiter. Je pense que c'est très délicat à traiter en France. Les Anglais sont capables de faire des films comme Four Lions, qui est un film avec quatre terroristes, qui est une comédie avec quatre terroristes très très stupides. Voilà, ils font une comédie avec des terroristes et ça ne pose aucun problème à personne. En France, c'est plus compliqué.
Pour quelle raison, à votre avis?
Notamment, je pense, à cause de notre passé colonial. Où les vagues d'attentats dans les années 90, c'était le GIA, c'était l'Algérie. Ça touche quand même à quelque chose de très
juste.
De très touchy en France, très, très compliqué à gérer.
Oui. C'est-à-dire que pour faire une propagande subtile, il faut être très net, en quelque sorte. Si on a un lourd bagage d'atrocité derrière soi, la propagande est plus difficile.
Sébastien Denis, et ce sera la conclusion.
Oui, je dirais que tout dépend finalement de la connaissance qu'on a des conditions de production des films. Tout dépend du point de vue aussi qu'on a en tant que spectateur. La propagande rouge de Daesh, par exemple, elle est horrible pour nous. Et donc elle est faite pour nous horrifier, mais elle est aussi faite pour attirer des gens qui, dans le monde entier, seraient justement fascinés par la mort et fascinés par finalement une nouvelle proposition de vie.
Voilà. Ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. J'ai pas eu le temps de dire un mot du film qui a finalement été un des prétextes à l'organisation de cette discussion. Film que j'ai vu récemment à la Cinémathèque française à Paris, en ouverture d'une rétrospective sur le cinéma hongkongais des 20 dernières années. C'est pour célébrer les 20 ans de la rétrocession. Et le film qui faisait l'ouverture s'appelle Our Time Will Come, de la cinéaste hongkongaise Anhui. Ça date de 2017. Ça raconte le combat des Hongkongais contre l'oppresseur japonais. Et si vous voulez voir un film de propagande contemporain, je vous conseille, alors je ne sais pas s'il sera distribué, mais je vous conseille de le regarder. Ça vaut son pesant de quoi de cacahuètes.
C'est comme ça qu'on dit, Jean-Luc Comolivo. Parce que c'est une cinéaste assez brillante.
Ouais, bah vous verrez si vous avez l'occasion, c'est assez surprenant en tout cas. Merci beaucoup Jean-Louis Comolivo, Sébastien Denis et Romain Prota. Merci à nos camarades de France Bleu à Amiens, France Bleu Picardie, d'avoir assuré le duplex. Merci également toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir Emmanuel Morse-Duncan. Arnaud Laporte,
présent.
Le cinéma, la propagande.
Mais les arts plastiques. Bon, il y aura Chantal Akerman, donc on sera un peu dans le cinéma et dans les arts plastiques dans 3 minutes dans la dispute. Elle grimpe un mot de demain, Hervé Gardette.
Le bac pro tiendra-t-il un jour ses promesses?
Très bien. Bah écoutez, on attend la réponse impatiemment.